grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Une odeur de gaz dans la maison et c'est la panique. Une odeur de gratin de pommes de terre dans la cuisine et c'est la joie. L'odeur de l'être aimé et c'est l'extase. Une odeur d'herbe coupée et c'est l'apaisement de l'âme. La mauvaise odeur de votre voisine du rez-de-chaussée et c'est le dégoût. L'odorat a un sens instinctif, intime, mystérieux. Peut-être le sens le moins valorisé en Occident. Comment expliquer la mauvaise réputation de cet organe capital? Comment fonctionne-t-il? Comment... Est-ce qu'on est égaux hein, en matière d'odorat? Comment font ceux qui ne sentent rien ou qui sentent trop? Pourquoi l'odorat est-il directement connecté à notre mémoire affective? Pourquoi a-t-on du mal à accepter les odeurs corporelles, surtout chez les autres? Pourquoi l'odorat peut nous renseigner sur la qualité d'un aliment ou sur notre état de santé? Pourquoi faut-il réhabiliter ce sens essentiel? Avec nous ce matin, pour répondre à vos questions, les scientifiques Rach Gurden et Roland Salès, et avec la journaliste Sophie Vaux de la revue L'Éléphant. Pensez-vous que l'odorat est un sens inférieur? Quelles sont les odeurs qui vous enchantent et celles qui vous révulsent? Comment vivez-vous le fait de ne pas avoir d'odorat? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Au menu tout à l'heure de votre petite philosophie de la vie quotidienne, il s'agira bien sûr d'odorat.
Oui, pourquoi mettons-nous du déodorant? C'est-à-dire pourquoi est-ce que nous nous soucions de notre odeur dans nos relations avec les autres?
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Il y avait un millier d'odeurs dans ses vêtements. L'odeur du sable, de la pierre, de la mousse, même l'odeur d'un saucisson qu'il avait mangé des semaines plus tôt. Il ne manquait qu'une seule odeur. La sienne. Pour la première fois de sa vie, Grenouille réalisa qu'il n'avait pas d'odeur à lui. Il réalisa que depuis toujours, il n'existait pas aux yeux des autres. Du coup, il eut peur de s'oublier lui-même. Comme si il n'existait pas.
Un extrait du Parfum adapté du roman de Patrick Suskind. Pour évoquer l'odorat ce matin, Roland Salès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, chercheur en neurobiologie, spécialiste de l'odorat. Vous avez notamment publié « Faut-il sentir bon pour séduire ?» Bonjour Rach Gurden.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur de recherche en neurosciences au CNRS et vous êtes le co-auteur du grand livre du parfum chez Contrepoint. Sophie Vaux, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez dans la revue de culture générale « L'éléphant », un dossier consacré à l'odorat. Alors, le héros du parfum n'a pas d'odeur. C'est un peu inédit. Ça arrive très peu souvent, ça relance à l'aise, parce que nous avons tous une signature olfactive singulière.
Oui, tout à fait. Alors, nous partageons tous une odeur d'humain entre nous. Et puis, individuellement, nous avons une telle signature qu'on peut nous reconnaître vraiment les uns des autres, rien qu'à l'odeur. Et il n'y a vraisemblablement pas, parmi les 7 milliards d'individus sur Terre, deux personnes qui ont exactement la même odeur corporelle.
Rach Gurden.
Oui, tout à fait, Roland a raison. Il n'y a pas probablement deux personnes qui n'émettent pas une odeur la plus infime qui soit. En plus, c'est très en interaction avec toutes les bactéries qu'on porte sur notre corps et la transformation des molécules qu'on va sécréter par notre sueur, par exemple, va être transformée par les bactéries et ça donne forcément beaucoup d'odeurs agréables ou pas très agréables.
Alors, l'odorat nous sert dans une très grande variété de situations et c'est un sens bien plus important qu'on ne le croit, Roland Salès.
Oui, tout à fait. On l'a beaucoup négligé, du moins en Occident. En ce moment, on vit une certaine période de réhabilitation et depuis des années, on a notre collègue et ami Annick Le Guerrer qui s'emploie à réhabiliter l'odorat. Mais finalement, réfléchissez un peu, qu'est-ce qui n'est pas odorisé dans notre vie de tous les jours? Depuis le réveil du matin au café, en sortant dans la rue, on va sentir plein de choses odorantes. On va nous odoriser les boutiques. Je ne sais pas si les studios de France Inter sont odorisés. Le soir, on va encore avoir d'autres odeurs. Donc tout le temps, on vit dans un monde d'odeurs et c'est comme si ça n'existait pas.
Rach Gurden, dans notre culture occidentale, l'odorat est un sens assez déprécié. Aristote affirmait par exemple que nous disposons d'un odorat nettement inférieur aux autres sens. L'odorat est associé à quelque chose d'archaïque, de viscéral, de peu noble, qui nous renverrait à notre état sauvage.
Ben, en fait, il vaut mieux le voir dans un côté positif, c'est-à-dire que l'odorat, c'est un bien commun, en fait, un système de détection, une fenêtre sensorielle ouverte au monde que tous les mammifères partagent. Et nous, les êtres humains, nous sommes des mammifères et nous pouvons utiliser ce sens. Et en fait, il y a depuis une quinzaine d'années beaucoup d'études qui montrent que nous ne sommes pas si handicapés, olfactivement parlant, que Aristote le pensait. Donc on va peut-être plutôt aller dans le sens positif de l'odorat que le sens négatif de l'odorat, comme les philosophes le disaient.
Sophie Vaux.
Il y a aussi l'idée qu'en fait, l'odorat, on s'en rend pas forcément compte, mais on l'utilise vraiment de manière consciente au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui est lié aux souvenirs, aux émotions. Donc, il y a aussi tout ce qui est lié à l'alimentaire, au plaisir, ça influence notre humeur. Donc, ça a vraiment un rôle très important. On s'en rend compte chez les personnes qui perdent l'odorat, c'est très handicapant au quotidien.
Roland Céleste, prenons un exemple. Une ville considérée comme civilisée, agréable, bah, c'est une ville qui ne sent pas mauvais.
Du moins, c'est ce qu'on croit, parce qu'il suffit de sortir dans la rue à Paris. Il y a de multiples odeurs, et en général, qui sont pas très agréables d'ailleurs, hein, surtout l'hiver. On a les odeurs d'échappement, on a les odeurs des poubelles. Éventuellement, quand on est tout près de la Seine, on a cette odeur un peu fade de l'eau froide. Enfin, une ville sent quelque chose, et il y a une parfumeuse, Cicel Tolas, qui s'est amusée à capter le parfum des villes et à le reconstituer. Donc, une ville sent quelque chose, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand le fumet émis par mon gratin de pommes de terre arrive à mon nez et provoque mon contentement? Il s'agit là de la rencontre entre une molécule olfactive et d'un neurone olfactif, Rach Gurden?
Oui, c'est ça. En fait, on a des molécules odorantes qui sont volatiles, donc qui se dissolvent dans l'air et qui vont circuler de la cuisine vers mon nez. Si je suis au salon, je peux sentir ce qui est dans la cuisine. Et donc, en fait, ça va se passer en deux étapes. D'abord, dans notre nez, bien sûr, comme tout le monde le sait, on a des détecteurs. C'est-à-dire, on va dire, bien, ça sent, ça va sentir quelque chose, il y a quelque chose dans l'air. Et puis ensuite, il y a tout un traitement très compliqué dans le cerveau qui va permettre, en fait, au bout d'un certain temps, qui est assez court, hein, moins d'une seconde, d'identifier cette odeur. C'est-à-dire, vraiment, ça sent le gratin de pommes de terre dans la cuisine. Donc, il y a ces deux étapes et une interaction, finalement, des informations qui sont envoyées vers le nez, du nez vers le cerveau, et comme Sophie l'a dit, avec des structures très impliquées dans la mémoire et les émotions. Et là, on peut avoir une réaction très hédonique. Par exemple, j'aime le gratin, donc je vais être attiré par ce gratin et je vais aller voir ce qui se passe en cuisine.
Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour faire la distinction entre la bonne et la mauvaise odeur?
Alors là, c'est tout un vécu, c'est quasiment toute notre vie qui est là-dedans, c'est-à-dire c'est un apprentissage. Dès tout petit, on commence à apprendre des odeurs qui sont plutôt appétitives, attrayantes, et puis d'autres odeurs qui vont nous déplaire parce que ça va être associé à un événement traumatique, par exemple. Et donc ça va constituer un espèce de stock et de panel d'odeurs positives et négatives que l'on va comme ça engranger tout au cours de notre vie.
Roland Salès.
Oui, moi, j'ai participé à la fondation d'une association qui s'appelle Nez en Herbe pour l'éveil olfactif des tout-petits. Et on s'aperçoit que chez les tout-petits, il n'y a pas de mauvaises odeurs. Il y en a certaines qui les intéressent plus que d'autres, on va dire. Mais même des mauvaises odeurs, même au contraire, ça a plutôt tendance à les intéresser. On voit qu'ils s'interrogent en respirant. Bon, il y a certainement des odeurs qui sont répulsives, comme on va dire les odeurs de cadavres, des choses comme ça. Mais un très bon exemple, c'est les odeurs excrémentielles, par exemple, pour les tout-petits. C'est pas du tout répulsif, comme on nous l'a appris après.
Mais dans l'évolution, la mauvaise odeur a été très utile.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un signal de danger.
Ouais. Allez, dites-nous quel est le rôle des odeurs dans votre vie. Quelles sont celles qui vous enchantent et celles qui vous révulsent? Dorothée nous dit sur notre page Facebook que l'huile de rose, c'est l'odeur qui m'apaise le plus. J'aimerais l'avoir naturellement. Et il y a une odeur à laquelle je pense souvent, c'est celle de ma mère décédée il y a 21 ans. Un mélange de tabac brun, de café, de transpiration, de parfum. J'arrive à la ressentir, ça m'apaise beaucoup, même si on est d'accord que décrite ainsi, elle ne fait pas forcément rêver. Allez, appelez-nous au 01 45 24 7. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile du... En avril, j'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Et je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole, il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Christophe, les mots bleus.
Tu devrais prendre un bain.
Pourquoi ?
Grand bien vous fasse.
Est-ce que vous avez du savon qui sente la rose ?
C'est très mauvais.
Sur France Inter.
10h20 et nous attendons ce matin toutes vos questions et réflexions sur l'odorat. 01 45 24 7000.
Le nez permet de sentir les odeurs grâce à des cils qui les attrapent pour informer le cerveau.
Des cils comme ceux autour de mes yeux.
Tu crois qu'on peut sentir les odeurs par les yeux?
Oh non, ce sont de tout petits poils.
Allez.
Alors maintenant, tu sais pourquoi tu sens les odeurs?
Oui, les odeurs passent dans mon nez quand je respire et sont dissoutes dans le mucus. Ensuite, les cils absorbent les molécules odorantes et envoient un message au cerveau pour qu'il reconnaisse les odeurs. Salut!
Alors, avec nous pour répondre à toutes vos questions sur l'odorat, Roland Salès, ingénieur agronome et neuroscientifique, Raj Gurden, neuroscientifique à l'INSERM, et Sophie Vaux, journaliste scientifique, qui signe un papier dans la revue L'Éléphant. Beaucoup, beaucoup de questions sur l'odorat et la mémoire affective. Pourquoi une odeur a-t-elle le don de réveiller des souvenirs enfouis? Comment expliquer cet immense pouvoir de l'odorat dans la mémoire émotionnelle, Roland Salès? Assez vertigineux. Hein.
Oui, c'est merveilleux aussi. Ça tient à un câblage particulier du système olfactif. C'est-à-dire que pratiquement dès les toutes premières étapes du traitement du message olfactif dans le cerveau, on stimule des zones qui sont liées à la mémoire et à l'émotion. À savoir, pour la mémoire, l'hippocampe, qu'on connaît un petit peu, hein, qui est une structure, un peu le chef d'orchestre de la mémoire. Et puis, l'amygdale, qui est un peu, pas l'amygdale de la gorge, hein, l'amygdale du cerveau, qui est en quelque sorte le carrefour des émotions. Et ce traitement se fait de façon non consciente, avant même qu'on ait reconnu l'odeur, qu'on puisse même en parler. Donc on éveille les émotions et les mémoires avant toute chose, avant de pouvoir en parler. C'est la fameuse Madeleine de Proust, bien sûr, qui est prototypique dans ce domaine.
Raj Gurden.
Oui, tout à fait, Roland a raison. C'est-à-dire que nous avons tous des Madeleines de Proust. Alors, on ne s'appelle pas Proust, mais on a des Madeleines. Et tout cela est donc engrangé dans notre cerveau. C'est une librairie dynamique, c'est-à-dire qu'on a des événements qui arrivent dans notre vie. Alors, il y a des stimulations visuelles, il y a des stimulations auditives et il y a des stimulations olfactives très, très présentes dans nos sphères de vie. Et ça, c'est des informations parfois vitales que l'on retient petit à petit, et donc ça va marquer vraiment notre cerveau, et c'est ce qu'on voit en imagerie cérébrale si on regarde le cerveau d'un être humain avec certaines odeurs.
Ce qui est extraordinaire, c'est quand c'est inopiné, je sens l'odeur d'un gâteau, si je me dis tiens, ça me rappelle ma grand-mère, oui, c'est clair, mais c'est quand c'est inopiné, quand cette odeur-là fait surgir mille et une images, relance Salès.
Oui, c'est ça le pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet de surprise. Puisque le traitement est non conscient, justement. À la différence des autres systèmes sensoriels qui passent par des filtres qui sélectionnent un peu l'information, là, le nez prend tout, en quelque sorte. Et donc, il stimule toutes les possibilités d'éveil du cerveau.
Question de Claire sur notre page Facebook. Pourquoi avons-nous un odorat beaucoup plus développé lorsque l'on est enceinte? Question qui revient souvent, Raj Gurden.
Oui, en fait, le système olfactif, quand on le regarde au niveau microscopique, les cellules qui composent ce système-là dans le cerveau sont très sensibles, portent des récepteurs en fait aux hormones sexuelles. Et effectivement, pendant la grossesse, on connaît tout le chamboulement hormonal avec évidemment des pics d'hormones sexuelles qui sont très importants, œstrogènes, progestérone. Et tout cela affecte très fortement le système olfactif, surtout dans les trois premiers mois de la grossesse, et puis petit à petit ça diminue.
Et Angéline nous dit, quand j'étais enceinte, j'aimais l'odeur des crottes de chien dans la rue. C'est étrange, mais ça n'a duré que le temps de la grossesse.
Oui, parce que ça, c'est tellement fort, en fait, cette stimulation du système olfactif, que ça peut aussi donner lieu à des confusions, et donc des choses qu'on aime bien peuvent devenir négatives, et vice-versa.
Roland Salès.
Oui, tout à fait. On a beaucoup d'exemples de femmes enceintes qui rapportent avoir changer de parfum, par exemple, parce que le précédent leur plaisait plus, et puis après, elles reviennent à leur ancien parfum après.
Sophie Vaux.
Oui, en parlant des femmes enceintes, je voudrais rappeler que le fœtus aussi, on parle du développement de l'odorat, c'est une question intéressante, c'est que le fœtus sent déjà les odeurs, et en fait, ça peut amener à des préférences de goût alimentaire. Si la femme enceinte va préférer tel aliment, en fait, ça va se transmettre à son fœtus qui a déjà un odorat à partir du 7e mois, il me semble.
C'est passionnant ça, Raj Gurden.
Oui, tout à fait. Nous sommes équipés pendant notre développement fœtal, à partir de 7 mois, on a des récepteurs olfactifs, des neurones olfactifs et aussi gustatifs, c'est-à-dire qu'on peut sentir et goûter tout ce qui se passe dans le liquide amniotique. Donc si la mère a tendance à consommer plus d'ail, parce que ça a été montré, à la naissance, les enfants, les bébés qui n'aiment pas beaucoup l'ail vont préférer l'ail.
Pourquoi l'odorat et le goût sont-ils intimement liés, Roland Salès?
Au départ, ils sont... Alors, il y a une grosse confusion. Dans le langage commun, on emploie le mot goût qui, en fait, recouvre les deux sensations dans la bouche et dans le nez. Alors, si on se place du point de vue du scientifique, on va dire le goût au sens commun, c'est constitué d'une sensation en bouche, je vais simplifier, on va dire sucré, salé, amer, acide, et puis d'une sensation olfactive, parce que les molécules volatiles odorantes qui sont libérées par l'aliment, quand on les mâche, passent par l'arrière-gorge, remontent dans le nez, et c'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction, et viennent stimuler le système olfactif. Et quand il suffit de manger avec le nez bouché, et on s'aperçoit tout de suite qu'on ne reconnaît pas ce qu'on mange, et bien, ce qui manque, c'est la composante olfactive qui est extrêmement importante dans le goût.
Raj Gurden.
Oui, tout à fait. On peut prendre l'exemple d'une soupe de légumes qui va avoir une couleur un peu rouge. Voilà, on va se dire, est-ce que c'est de la carotte, est-ce que c'est du potiron, etc. Si jamais on a le nez bouché, clairement, on ne pourra pas dire. On pourra dire c'est par exemple salé parce qu'on a bien salé ou épicé, mais on ne pourra pas dire ce qu'il y a dans la soupe. C'est exactement cette identification que permet le nez pendant la mastication dans la bouche.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Vous êtes notre grand reporter. Alors à propos du lien entre les odeurs et le goût, vous avez rencontré un homme qui a perdu l'odorat.
Ouais, et ça porte un nom, c'est l'anosmie, le fait de ne plus sentir aucune odeur. C'est ce qui s'est passé pour Jean-Michel Maillard. Ce quarantenaire a perdu l'odorat il y a 3 ans, suite à un accident. Depuis, il a créé l'association anosmie.org. Il veut sensibiliser le public sur ce handicap sensoriel invisible qui peut avoir de lourdes conséquences sociales. Je l'ai rencontré dans un restaurant à l'heure du déjeuner.
Alors ma vie a basculé le 6 novembre 2015. Je fais un simple malaise. Un malaise chez moi et je tombe de tout mon poids sur l'arrière de la tête. Et ce choc, finalement, j'apprendrai quelques semaines et quelques mois plus tard qu'il a endommagé la liaison neuronale avec mon bulbe olfactif et donc j'avais perdu l'odorat. Et vous comprenez que vous avez cassé votre déclencheur à souvenir, que vous ne sentirez plus l'odeur de la pelouse coupée ou du café du matin, vous ne sentirez plus l'odeur de vos enfants, l'odeur de votre femme, l'odeur de vos proches, le parfum de votre père, de votre mère. Je me souviens que c'était des odeurs qui me rassuraient, qui me faisaient du bien. Mais je ne me souviens plus de ce que ça sentait, de ce que ça sent. Non, je ne me souviens plus.
Et comment vous vivez ça, cette perte ?
On est dans un univers où on perd toutes nos émotions, où on perd tous nos repères. Les ORL nous annoncent 80% des personnes touchées par l'anosmie présentent des épisodes dépressifs sévères. Quoi. Parce que chaque anosmie est singulière. Si vous êtes célibataire et que vous avez 18 ans, vous avez d'autres problèmes, comme j'en ai eu à l'association de jeunes qui viennent m'expliquer qu'il faut retourner les chaussures avant que la petite amie arrive. Parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a sous les chaussures. Peut-être qu'on a marché dans quelque chose dans la rue. Voilà. Après, vous avez des anosmiques, des gens qui sont plutôt âgés, qui veulent surtout pas dire à leurs filles qu'ils sont anosmiques parce que on va pas leur confier les petits enfants, parce que si on détecte pas une odeur de fumée, donc voilà, il y a aussi beaucoup de mensonges.
Nos plats sont arrivés, on va déjeuner. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce plat, ce burger accompagné de frites?
Voilà, parce que les frites, il y a une vraie sensation en bouche, d'accord, de croustillant. Je vais mettre du sel dessus, donc ça c'est parfait.
Vous sentez le sel?
Oui, le sel, sucré, salé, acide, amer. Oui, ça on le sent. On n'a plus les saveurs. Parce que votre odorat participe à 80% à la construction de votre goût, par la rétro-olfaction. C'est, je dirais, la double peine. On a perdu l'odorat, mais on a perdu aussi 80% de notre goût.
Bon, est-ce que je peux vous souhaiter bon appétit ou ça n'a pas de sens?
Si. Tous les gens de l'association, tous les gens même qui m'appellent, je leur dis qu'il faut rester dans ce monde de l'olfaction. Il faut qu'on trouve des moyens de reprendre du plaisir. Et je reste persuadé qu'il y en a.
Bon appétit.
Merci, Antoine.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la vie elle a moins de saveur, dans tous les sens du terme?
C'est très difficile, c'est très douloureux, mais c'est aussi très riche quand on arrive à accepter ce handicap. Vous avez un sens, vous, qui est magique, qui est le sens de l'émotion, un sens vraiment qui vous amène aux racines de votre vie, quoi. C'est un sens magnifique. Je m'en suis rendu compte le jour où je l'ai perdu.
Reportage signé Antoine Lee.
Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur notre page web. Nous faisons le lien vers son association anosmie.org.
Réaction à ce reportage, Roland Salès?
Oui, j'ai l'occasion dans mes conférences de rencontrer des gens qui sont anosmiques. Alors certains s'en plaignent vraiment beaucoup et peuvent tourner même à la dépression. Et puis d'autres, au contraire, ça ne les gêne pas. J'ai même rencontré une femme qui me disait « Moi, je continue à cuisiner pour ma famille et toujours avec la même dextérité, si je puis dire, et le même accueil. » Donc, il y a vraiment des très grandes différences, mais c'est quand même très handicapant.
Quelles sont les causes principales d'une perte d'odorat, Rajik Gurdan?
Alors, pour Monsieur Maillard, qu'on vient d'entendre, c'est un accident, malheureusement. Donc, il y a une chute ou alors un accident de voiture, un coup du lapin qui fait qu'on a une section donc du nerf olfactif. Le nez ne peut plus communiquer avec le cerveau. Mais on a énormément de cas où on va avoir un problème intranasal, c'est-à-dire des inflammations, des rhinites, des sinusites, des allergies, des polypes, donc tout un ensemble de choses qui va empêcher finalement les molécules odorantes d'aller jusqu'à leur détecteur au fond du nez.
Ça peut être dangereux hein, de perdre l'odorat, on ne sent pas la fumée d'un feu qui vient, ou bien on ne détecte pas la mauvaise qualité d'un aliment toxique, Roland Salès?
Oui, tout à fait, ça, c'est un problème qui se pose en particulier pour les personnes âgées. Bon, on a un déclin du sens olfactif, généralement, et effectivement, il y a un moment où l'alimentation devient un problème.
À l'inverse, on peut trop sentir les odeurs. Hors antenne, Sonia De Villard me disait que sa mère sentait trop les odeurs, qu'elle était très sensible, hypersensible.
Oui, effectivement. C'est vraiment assez rare, mais il y a des cas d'hyperosmie, c'est-à-dire d'hypersensibilité. Même une toute petite concentration d'odeur va provoquer une réaction très rapide chez la personne. Là, on n'a pas beaucoup d'explications scientifiques sur ces cas-là, mais ça existe effectivement.
Hors pathologie, sommes-nous tous égaux en matière d'odorat? Dans une une famille, il y en a toujours un pour détecter une odeur en premier. Vous trouvez pas que ça sent le gaz là? On n'est pas tous égaux, hein, Rach Gurden.
Oui, tout à fait. En fait, dans notre panel de détecteurs, on a environ 400 récepteurs, 400 types de récepteurs différents chez l'être humain. Et en fait, on a un polymorphisme, c'est-à-dire que nous, dans cette salle, par exemple, nous sommes 6 et nous avons chacun notre répertoire. C'est-à-dire, on n'a pas exactement les 400 mêmes récepteurs. Donc, ça va varier de 300 à 400. Et du coup, ça va nous donner une sensibilité olfactive qui va déjà être différente.
Comment expliquer que certaines odeurs puissent provoquer des nausées, un malaise, sans que l'odeur soit toxique en soi, Roland Salès?
Alors, dans la littérature scientifique, il y a quand même relativement peu de travaux sur ce point. Alors, c'est un fait constaté dans la vie quotidienne. Le plus souvent, les gens qui se plaignent, par exemple, sont auprès d'installations industrielles ou agricoles qui émettent ce qu'on appelle généralement des mauvaises odeurs. Mais on s'aperçoit, par exemple, que quand on enquête auprès des gens qui travaillent dans ces usines, ils supportent beaucoup mieux la mauvaise odeur que les gens qui en subissent les nuisances sans être impliqués d'une autre façon. Donc là, il y a un collègue de Nice qui a enquêté sur ces travailleurs exposés et qui montre qu'ils se plaignent jamais des mauvaises odeurs. À la limite, ils disent « Oh, tu te rappelles, ça sentait fort des égoutiers, par exemple, des gens comme ça. » Mais jamais se plaignent des mauvaises odeurs.
Sophie Vaux.
En parlant de la sensibilité aux odeurs, c'est vrai qu'il y a aussi certains composés en fait que certaines personnes peuvent sentir puisqu'ils ont un récepteur pour et d'autres non. Enfin, je pense à l'androsténone par exemple, qui est une odeur qui est plutôt désagréable. Certaines personnes la sentent et d'autres pas du tout.
Bonjour Daniel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez du Morbihan.
Oui, j'appelle du Morbihan et alors moi, à l'inverse de tout le monde, je sens des odeurs qui n'existent pas. Alors c'est ce que me dit mon entourage parce que effectivement ce sont des odeurs inopinées. Je vais sentir des oignons frits à 8h le matin alors que personne ne cuisine. Je vais sentir dans la journée une odeur de gasoil brûlé comme si un tracteur venait de traverser mon jardin. Et puis ces odeurs, quelquefois je les ai toute la journée, c'est-à-dire que je les sens chez moi, je les sens dans ma voiture, je les sens en grande surface. Et j'ai cette odeur dans le nez toute la journée. Et je suis la seule à le sentir, évidemment. Donc, j'ai consulté mon médecin généraliste qui m'a dit, bon, ça vient peut-être de vos sinus. J'ai fait un scanner des sinus. Je n'ai rien. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec un ORL, mais bon, c'est vrai que c'est très long, les délais sont très longs, et je n'ai rendez-vous que la semaine prochaine. Donc, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Je me dis, bon... On me dit c'est des signes avant-coureurs de maladies graves, ou tu vas faire un AVC, ou tu vas déclencher une maladie d'Alzheimer.
On va essayer de vous rassurer, Daniel.
J'ai 77 ans, donc voilà.
On va essayer de vous rassurer, Daniel, et vous n'êtes pas la seule. Cyril nous dit, pour ma part, je souffre depuis 3 ans de ce que l'on m'a diagnostiqué comme une fantosmie. Ce sont des hallucinations olfactives. Je suis entouré d'odeurs qui n'existent pas. Rach Gurden.
Oui, tout à fait. On peut tout de suite rassurer Daniel. Effectivement, la fantosmie, ça n'a jamais été décrit comme un avant-coureur d'un problème médical profond et important. Maintenant, c'est très handicapant, évidemment, dans la vie de tous les jours, comme Daniel nous le décrit. Il n'y a pas beaucoup d'explications scientifiques par rapport à cela. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est sûrement pas dans le nez que ça se passe. C'est probablement dans le cerveau qu'il y a comme des hallucinations, des activités cérébrales qui sont inopinées, qui arrivent. Et là, l'ORL est extrêmement important parce qu'il faut quand même pousser quand même les examens intranasal à fond, mais aussi peut-être se réentraîner olfactivement parlant à ressentir une série d'odeurs tous les jours pour bien se faire des référentiels et pour bien aider le cerveau à reconnaître certains types d'odeurs. Et ça peut entraîner le cerveau à perdre petit à petit ces automatismes hallucinatoires en fait que peut-être Daniel ressent effectivement toute la journée.
Bon Daniel, vous êtes rassuré?
Oui, je suis rassurée en ce qui concerne les maladies graves. Maintenant, bon, c'est pas tous les jours. Hein, bon, mais et je ne sais pas si l'entraînement qui m'est conseillé, si on peut le faire seul ou si il faut se faire aider, parce que ça me paraît pas évident à faire.
Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, de nous avoir appelé. Thibaut de Saint-Maurice, quelle réflexion vous inspire notre sujet du jour?
Eh bien, une question fondamentale, Ali, philosophique par excellence. Pourquoi mettons-nous du déodorant? Pourquoi voulons-nous sentir bon? Pourquoi nous parfumons-nous? Pourquoi investir autant sur notre odeur? Alors assurément parce que la bonne odeur est le premier indice de la bonne hygiène, tout comme la mauvaise odeur est le premier indice de la saleté. Et puis risquer la mauvaise odeur en public face aux autres, c'est prendre le risque que les autres ne nous sentent plus ou ne nous sentent pas tout court, hein, pour finir par être marginalisés. En fait, on met du déo par peur de la désapprobation sociale. C'est une norme d'hygiène qui assure le bon fonctionnement du groupe et le confort aussi des trajets dans les transports en commun, c'est important. Mais bon, au-delà de ça, ça révèle que l'odeur est une manière d'entrer en relation avec autrui parce qu'elle exprime une identité. L'odeur, c'est immédiat. Avant même parfois de toucher quelqu'un, avant même de le voir ou de l'entendre, on peut le sentir. L'odeur apparaît du coup comme une extension de nous-mêmes, comme un dépassement des limites de notre corps et des limites de la réalité. C'est une extériorisation de l'intime.
Et c'est aussi pour cela qu'elle constitue une part importante de notre mémoire.
Oui, c'est tout le paradoxe de l'odorat comme sens. On l'a déjà un peu dit, hein. Au départ, l'odorat, il est souvent jugé comme étant le moins précis de nos sens, hein. Moins précis que la vision ou que le toucher, qui nous permettent de repérer des formes précises, ou bien la texture des matières. Un peu moins précis que l'ouïe, avec laquelle on peut aussi distinguer des différences de hauteur, de justesse ou d'harmonie. Et aussi encore un tout petit peu moins précis que le goût qui, malgré tout, s'ordonne autour, vous l'avez dit, de grandes saveurs comme le sucré, le salé, l'acide, l'amer, etc. L'odorat, c'est un peu le plus flou des sens. Les odeurs flottent parfois sans qu'on puisse les identifier. Elles disparaissent aussi rapidement aussi qu'elles sont apparues. Ou bien encore, elles s'effacent avec le temps. Et pourtant, le paradoxe, c'est que les odeurs peuvent nous rappeler des souvenirs extrêmement précis. À la première seconde où nous le sentons, vous savez, nous retrouvons l'odeur d'un sous-bois après la pluie dans la forêt de notre enfance, ou bien le parfum d'un linge enfermé dans un placard chez notre grand-mère. À propos de la fameuse Madeleine, Proust écrit que l'odeur et la saveur sont comme l'âme des moments disparus et qu'ils portent à eux seuls l'édifice immense du souvenir, comme les fondations de notre mémoire. L'odorat, c'est un sens à la fois très imprécis et très précis, parce que, au fond, c'est le sens par excellence de l'intime. Et de même que nous mettons des vêtements pour ne pas nous promener tout nus, eh ben nous mettons du déo pour ne pas laisser notre odeur toute nue. Et de même que nous pouvons parfois choisir des vêtements pour être chic, eh bien nous nous parfumons pour séduire. Il faut donc d'abord sentir avant de penser et d'espérer pouvoir connaître quoi que ce soit. N'ayons plus peur à l'idée des mauvaises odeurs et ne négligeons pas le pouvoir et le plaisir des bonnes odeurs, parce que l'odeur n'est jamais superficielle, ou plutôt comme souvent, c'est une surface qui va révéler la profondeur des choses et des êtres.
On reviendra d'ailleurs sur les odeurs corporelles, surtout chez les autres, juste après le disque. Les chroniques de Thibaut de Saint-Maurice sont à voir ou à revoir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bain vous fasse. Dans quelques instants, nous évoquerons l'odorat comme vecteur de désir et d'érotisme. N'hésitez pas à nous dire quelles sont les odeurs qui vous enchantent, celles qui vous excitent et vous révulsent. 01 45 24 7000.
Big boss man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. That's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, just tall, that's all. Boss man, one gonna treat me right. Work him hard in the daytime, but he'll sure rest easy at night. Big boss man, can you hear me when I call?
Mercury Rêve interprété Big Boss Man.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42 et nous attendons ce matin toutes vos questions et réflexions sur l'odorat. 01 45 24 7000. Écoutons le grand historien Alain Corbin.
L'ambre, le musc et la civette qui ont été les grands parfums animaux ont effectivement été très utilisés au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Au XIXe, les moralistes se méfient des parfums animaux. Ils voudraient que les femmes ne mettent pas de parfums animaux parce qu'ils craignent la sexualité féminine débridée. Et ils ont l'impression, en assimilant la femme à la fleur et donc en lui, j'allais dire, imposant des parfums floraux, de désamorcer ce risque de libération des pulsions sexuelles féminines. Donc autour de ce jeu des parfums animaux et des parfums floraux se déploie un combat, se révèle une anxiété masculine qui est tout à fait intéressante.
L'historien Alain Corbin, l'auteur d'un très grand livre, Le miasme et la jonquille. Roland Salès, en matière de séduction et de sexualité, c'est surtout la vision qui prédomine, puis le toucher, puis l'ouïe, et l'odorat dans tout ça. Est-ce qu'on peut trouver l'âme sœur grâce à l'odorat?
Alors, suivant les promoteurs des phéromones parties, qui sont des espèces de nouvelles formes de balles du samedi soir. Où
expliquez ce que sont les phéromones.
Oui, alors voilà, dans les phéromones parties, les participants viennent avec un t-shirt qu'ils ont porté pendant 3 nuits successives. Ils la portent dans un sac en plastique. Et puis, il y a une table pour les hommes, une table pour les femmes. On dispose des t-shirts et ceux ou celles qui sont à la recherche de l'âme sœur viennent renifler les t-shirts. Et quand ils ont trouvé un t-shirt dont l'odeur leur plaît, ils montent sur scène et ils brandissent le numéro et on espère que l'âme sœur va venir les rejoindre et plus si affinité. Mais en fait, c'est pas complètement idiot. Disons que les femmes attachent sans doute plus d'importance aux odeurs masculines que l'inverse. Les hommes sont plus sensibles aux aspects visuels et de la voix. Alors que les femmes sont plus sensibles à l'odeur.
Radio Gurden, c'est une idée reçue, le fait que les êtres humains émettent des phéromones. Je rappelle que les phéromones, ce sont ces molécules chimiques produites par un organisme qui induit un comportement spécifique chez un autre membre de la même espèce.
Oui.
Mais nous, on n'est pas doté de phéromones.
Non, en fait, c'est même au-delà du comportement spécifique, c'est un comportement stéréotypé. C'est-à-dire que chez les insectes, chez certains petits mammifères, tout de suite, il va y avoir accouplement. Et cet accouplement, il a un temps très limité dans la nature parce qu'on est en danger d'être attaqué pendant ce temps-là. Évidemment, chez l'être humain, on a évolué différemment. Et donc, l'odeur est un indice, comme les autres indices visuels, auditifs, etc., par rapport même à la voix de la personne dans la relation amoureuse est très importante. Donc, ça rentre évidemment dans toutes les indications sensorielles de l'attraction sensuelle, sexuelle, etc. Mais c'est pas, à mon avis, l'élément essentiel, en tout cas.
Et comment expliquer que certaines odeurs corporelles excitent notre désir, Roland Salès ?
Alors là, c'est très difficile. Il semble que certaines odeurs liées au sexe, donc des stéroïdes sexuels, soient l'objet d'un traitement particulier dans le cerveau. Ça ne veut pas dire, comme Rach vient de le dire, qu'il y a automatiquement une réponse comportementale, un accouplement. Mais ça veut dire que quand même, il y a un traitement particulier, donc au niveau en particulier des zones qui sont liées à la sexualité. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait ça favorise un comportement, mais ça ne va pas le déclencher.
Sophie Vaud de la revue L'Éléphant.
Dans ce thème de la séduction, les odeurs, c'est aussi quelque chose qui est très culturel. Par exemple, aujourd'hui, on est quand même dans une société désodorisée où il n'est pas bon de sentir mauvais. Donc, on va être plus attiré par quelqu'un qui met du déodorant, qui sent bon. Mais c'était pas le cas toujours. Et dans certaines civilisations, c'est quand même plus valorisant de sentir qu'on garde les odeurs corporelles.
Et pourquoi avons-nous du mal, en tout cas en Occident, avec les fortes odeurs corporelles des autres? Et d'ailleurs, la lutte contre les odeurs, c'est le fruit d'un long travail de civilisation, comme le montre admirablement Alain Corbin. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les élites développent une sensibilité nouvelle et ne supportent plus les miasmes urbains. C'est à partir de cette époque qu'on assiste à une désodorisation de nos vies et ça va se poursuivre évidemment au XIXe siècle, Roland Salès.
Oui, tout à fait. Je pense que le livre d'Alain Corbin décrit très bien ce phénomène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris conscience que les mauvaises, enfin surtout, on va dire les odeurs fortes étaient liées à la putréfaction, à la maladie et à des classes sociales aussi défavorisées, les bourgeois, dans un premier temps, voulaient en décaler en sentant bon ou en ne sentant rien. Et puis, évidemment, nos villes se sont améliorées. On a fait des égouts, on a amélioré considérablement la santé. La période hygiéniste est arrivée avec la découverte des microbes, etc. Et au lieu de penser que les mauvaises odeurs, comme du temps de la peste, étaient elles-mêmes contagieuses et dangereuses, on s'est aperçu que c'était des microbes et que les microbes ont commencé à savoir les contrôler.
Raju Gurden.
Et oui, comme le dit bien Roland, c'est que les mauvaises odeurs viennent d'une interaction, c'est-à-dire un organisme malade ou évidemment décédé va libérer par une décomposition bactérienne en fait des mauvaises odeurs. Et ça, c'est normal qu'on sente ça comme une odeur mauvaise puisque c'est un danger potentiel de transmission de maladies.
Et puis l'odeur peut être un instrument de jugement social. Nous jugeons quelqu'un, un groupe, en fonction de son odeur. Et puis de façon raciste, tel groupe ethnique est réputé sentir mauvais, Roland Salès.
Oui, complètement. On a dit au début de l'émission que chacun de nous avait une odeur individuelle. Mais disons, l'odeur de famille est sans doute celle qui est la plus proche de nous. Puis plus on s'éloigne de la famille, les habitudes culturelles, les origines ethniques vont changer. Et on va avoir des odeurs corporelles qui vont être différentes. Il y a quelque chose qui est très net. C'est par exemple les Japonais sont dépourvus d'un certain gène qui permet la sécrétion dans la sueur des précurseurs des mauvaises odeurs, et ils ont une odeur corporelle très faible, voire absente. Et ce gène est de plus en plus présent. Plus on va vers l'ouest, plus ce gène est présent. Donc chez les Européens, chez les Africains, il est très présent.
Je pense aussi, là, en parlant des différents pays, qu'il y a des odeurs qui sont appréciées différemment par les pays en dehors des odeurs corporelles. C'est vrai qu'il y a, par exemple, le fromage français est peut-être désapprécié de certaines odeurs.
Alors,
nous recevons
beaucoup de questions sur les odeurs qui soignent. Nous consacrerons une émission à l'aromathérapie. Rappelez-nous peut-être en deux mots ce qu'est l'aromathérapie, Roland Salès.
Alors l'aromathérapie, faut distinguer deux choses. L'aromathérapie, si on la prend en sens vraiment le plus strict, c'est l'administration de produits aromatiques. C'est de la pharmacologie, c'est-à-dire qu'on avale quelque chose ou on étend sur la peau. Il faut distinguer de ce qu'on appelle l'aromacologie ou olfactologie, qui est le fait de respirer cette fois seulement. C'est-à-dire qu'on n'administre pas de produits médicamenteux ou d'extraits de plantes. Donc ça, c'est une différence. Et donc l'effet de l'olfactologie ou de l'aromacologie, qui passe donc uniquement, on va dire, par le nez, semble être quelque chose qui nécessite un traitement central dans le cerveau, mais qui a néanmoins des effets. Bon, il y a des odeurs qui sont connues comme apaisantes, la lavande, par exemple, d'autres comme excitantes, la menthe.
Il y a donc des bases scientifiques?
Alors, il y a des articles scientifiques, il y en a malheureusement pas suffisamment, mais il y a des données scientifiques qui montrent ça. Mais ça dépend beaucoup aussi de l'interaction avec le thérapeute.
Raju Gurden.
Oui, tout à fait. On sait que le système olfactif est très lié à des zones du cerveau qui font l'interconnexion avec le corps, et notamment, par exemple, le cœur. Et on a déjà enregistré dans les rares études, malheureusement, qu'il y avait effectivement une diminution, par exemple, du rythme cardiaque en présence de lavande.
Donc, effectivement, l'huile essentielle de camomille, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, il y a toute une batterie en fait d'odeurs qui permettent en fait une relaxation et de devenir plus calme en fait en présence de ces odeurs. Donc, il y a quand même des bases scientifiques là-dessus.
Question très importante, Roland Salès. L'odorat peut-il servir à établir un diagnostic?
Alors, jusqu'à l'avènement de la médecine moderne, les médecins qui n'avaient pas grand-chose d'autre comme outil se servaient de leur nez. Ça marchait très bien. Il y a eu des traités sur ce sujet jusqu'à la fin du 19e siècle. Puis depuis qu'on a toutes ces méthodes d'analyse, les grosses machines, etc., on a un petit peu oublié. Et c'est plus enseigné dans les études de médecine. Par contre, il y a des médecins qui l'utilisent. Et maintenant, il y a un renouveau d'intérêt en utilisant des chiens pour faire le diagnostic, simplement en sentant l'haleine des patients ou les odeurs corporelles. Et puis, il y a même ce qu'on appelle des nez électroniques qui sont capables de faire des diagnostics avec un niveau de justesse équivalent, voire supérieur à celui d'un médecin.
Comment ça marche?
Alors, en fait, on a parlé du bouquet olfactif humain. Donc, nos odeurs corporelles sont le résultat d'un tas de processus, dont des processus, disons, métaboliques qui impliquent éventuellement des processus pathologiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une maladie, notre métabolisme est perturbé, éventuellement nos bactéries corporelles sont perturbées, on va changer d'odeur. L'important, c'est de trouver les produits odorants qui signent une maladie. Parce qu'on a recensé plus de 1800 produits volatiles émis par le corps humain. Donc vous voyez, il faut trouver les bons. Et dans un article qui est paru en 2017, les collègues ont identifié 13 produits chimiques seulement dont les taux respectifs peuvent signer une maladie.
Bonjour Marc-Antoine Catelin, bienvenue.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes cofondateur et directeur général de Connectage, c'est une plateforme personnalisée de jeux multisensoriels qui permet le maintien cognitif des personnes âgées ou malades, notamment d'Alzheimer. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Tout à fait. Donc nous, nous sommes éditeurs de logiciels et nous créons et développons une gamme de jeux numériques de stimulation cognitive multisensorielle, donc à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc pour rappel, les fonctions cognitives sont tout ce qui concerne dans notre cerveau la mémoire, l'attention, la culture générale, le langage, et nous, nous avons fait le choix de nous orienter sur l'aspect multisensoriel, notamment en travaillant sur la mémoire olfactive, car c'est un sens qui est à notre goût pas assez développé. Donc de ce fait, nous avons créé un dispositif à 30 odeurs naturelles différentes qui est relié via Bluetooth à la tablette numérique pour travailler sur tout ce qui est l'aspect un peu plus réminiscence. Et l'objectif est de travailler sur les souvenirs des personnes âgées, un peu comme à Madeleine de Proust. Donc de ce fait, on travaille en collaboration avec différents neuropsychologues qui nous permet en fait de segmenter nos odeurs en 4 catégories. Donc on a la gamme mer, la gamme campagne, la gamme ville et la gamme habitat. Donc, comme vous l'avez dit, on a l'odeur d'herbe coupée, on a l'odeur de cannelle, l'odeur de feu de bois, également l'odeur de gaz butane, notamment pour travailler un peu plus sur le côté prévention.
Roland Salès, sur cette initiative.
Oui, ça c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit notamment avec les personnes âgées que la stimulation olfactive, alors je parle seulement de l'olfaction, mais les autres sens marchent aussi, réveille des mémoires qu'on a du mal à réveiller d'une autre façon.
Merci beaucoup Marc-Antoine Catelin. Allez, n'hésitez pas à continuer à réagir sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Hubert Lenoir, interprété, recommencé.
Allez, Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et on attend toutes vos questions sur l'odorat ce matin. Un internaute nous demande pourquoi les odeurs ont le pouvoir de nous manipuler quand, par exemple, un commerçant asperge la rue d'un parfum de croissant ou de pain au chocolat pour nous appâter. Et pourquoi est-il si difficile de résister, Rach Gurden? Je rappelle que vous êtes neuroscientifique.
Ah bah c'est assez simple, c'est-à-dire qu'à jeun, on a une sensibilité olfactive qui est très augmentée, donc on peut sentir des odeurs de très loin. Ça nous arrive à midi quand on sent la frite de la cantine de très très loin. Et c'est ce qui se passe le matin exactement. C'est-à-dire si on rentre dans le métro, qu'on a jeûné, on n'a pas pris le petit déjeuner, on va être tout de suite attiré par une odeur de pain au chocolat.
C'est efficace ce marketing-là, Roland Salès, le marketing des odeurs?
Disons que ça marche marginalement, c'est-à-dire que on n'a pas de chiffres, hein, parce que ces essais-là sont soit confidentiels, soit, disons, au grand public, on ne fait pas d'enquête, mais ça marche marginalement. Des chiffres qu'on a dans certains articles scientifiques montrent des augmentations de ventes de l'ordre de 10 à 15, voire 20% au mieux.
Question de notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je me demandais pourquoi est-ce que parfois, en fait, on s'habitue aux odeurs. C'est-à-dire,
mauvaises odeurs,
notamment. Oui, vous promenez dans la campagne, on passe à côté d'une étable, quoi, on a une impression très très forte. Et puis, si on reste un peu, en fait, on se sent de moins et on est de moins en moins gêné.
Alors ça, c'est quelque chose qui s'explique dans l'évolution. Imaginons qu'une petite souris est dans l'herbe et sent beaucoup cette odeur d'herbe. Si jamais il y a un chat qui arrive, s'il est tout le temps en train de sentir cette odeur d'herbe, il est incapable, en fait, cet animal, de sentir, en fait, qu'il va être attaqué. Et donc, il y a une habituation, une adaptation du système, donc c'est des mécanismes différents, peu importe, qui fait qu'il y a une sensibilité renouvelée très rapidement du système olfactif et qui peut être alertée par d'autres molécules odorantes qui vont arriver et qui vont peut-être être un signal de danger.
Beaucoup de questions sur les capacités olfactives du chien qui nous bat à plate couture en la matière, Roland Salès. Question annexe, quels sont les autres animaux qui sont les champions de l'odorat? Le chien?
Oui, l'éléphant peut-être, qui est le record du nombre de gènes de récepteurs olfactifs, 2000, et qui a sans doute une culture olfactive, c'est des animaux qui vivent très longtemps et donc qui ont une mémoire olfactive fantastique.
Pour finir, quelle est l'odeur qui vous ravit et celle qui vous révulse? Tiens, Raj Gurden,
l'odeur qui vous ravit. J'allais commencer par les choux de Bruxelles parce que souvent on est plus marqué par les odeurs qui nous révulsent. Donc moi, les choux de Bruxelles, c'est pas possible, donc c'est très alimentaire. Et sur les odeurs qui me ravissent, je dirais plutôt l'odeur de cannelle.
Sophie Vaux.
Les odeurs qui me ravissent, il y en a plusieurs déjà dans l'alimentation, les épices, les choses comme ça. L'odeur de pain aussi, et puis les odeurs que j'aime pas vraiment, la pollution, le gasoil, tout ça.
Roland Salès.
J'ai dans mon jardin un chèvrefeuille qui fleurit l'hiver. Et chaque fois que je passe à côté, je m'arrête pour sentir. C'est une odeur douce et suave qui me ravit.
Qu'est-ce qui vous révulse?
Pas grand-chose finalement. Je suis agronome, donc j'ai senti les odeurs de fumier, les odeurs de cadavres, etc. Et il y a assez peu de choses qui révulsent.
Merci à tous. Ce petit mot de Saint-Maurice, tiens, rapidement, l'odeur qui vous ravit quand même.
Oui, alors c'est l'odeur des bébés.
Ah, ben moi aussi.
Quand j'ai l'air dans le cou d'un bébé.
Merci à tous. Vous pouvez retrouver la bibliographie de nos invités sur le site de France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et vous pouvez vous procurer en kiosque l'excellente revue L'éléphant. Demain, je vous propose une émission consacrée aux algorithmes qui ont un impact dans notre vie sociale et quotidienne avec la mathématicienne américaine Cathy O'Neill et le journaliste Thomas Huchon. À la technique ce matin, Maxime Ingrand et Gilles Gaillard. À suivre, Nagui et sa bande originale.